15h le samedi, Kiosk, Cynthia Isarelli.
Bonjour, vous tombez bien. Aujourd'hui, on s'évade sur la pointe des pieds, ou plutôt devrais-je dire sur le bout des doigts. Après 12 ans d'absence et plus de 300 représentations à travers le monde, Kiss and Cry, spectacle iconique à la croisée des genres, co-signé Michel Andemay et Jaco Van Dormael, entre autres, est de retour en Belgique, dans ce théâtre d'objets miniatures, paroles et cinéma qui se superposent pour concevoir en direct chaque soir une représentation unique et poétique. Et donc, à l'occasion du retour de ce spectacle, nous recevons la chorégraphe Michel Andemay. Marceline aussi, elle aime danser et s'évader, mais pour elle, c'est plutôt une question de survie. Un soir où la violence domestique déborde, la fillette s'enfuit par le poster de son mur en compagnie de l'ange Gabriel, direction la Voie lactée et au-delà, à la rencontre de tous les paumés magnifiques qui cherchent la consolation dans les paillettes. Marceline est un conte initiatique pour adultes, c'est à voir en ce moment au Théâtre des Riches Clairs à Bruxelles. La metteuse en scène Claudia Bruno sera avec nous pour nous en parler. Et dans l'arrière-boutique du kiosque, il y a François Caudron aujourd'hui. Bonjour François.
Bonjour Cynthia.
Et vous avez sorti votre boîte à outils.
Oui, et pour vous parler d'un beau spectacle, un spectacle conférence qui part de la tradition, qui convoque l'esprit des forêts pour tenter de réenchanter le monde et surtout de clouer notre souffrance au pilori. Le spectacle a pour titre L'arbre à clous et c'est au Théâtre des Martyrs.
On se réjouit d'entendre cela, vous l'aurez compris. L'enchantement, c'est donc le fil rouge de cette émission qui a été préparée par Ajar Boulèche et Simon de Beuchard. Merci à eux. Merci à vous d'être dans les parages. Le kiosque est ouvert. Entrez dans la danse.
Kiosk sur la première.
Gisèle n'aimait pas le monde et elle savait que le monde ne l'aimait pas. La première fois qu'elle était tombée amoureuse, ça avait duré 13 secondes. Le train avait dû freiner. Les mains s'étaient touchées. Elle ne l'avait jamais revu. Sa mémoire avait joué toute seule. Elle ne se souvenait plus que de ses mains. Dans sa vie, il y avait eu 5 hommes. La nuit, elle regardait leurs mains.
Où vont les gens quand ils disparaissent de notre vie et de notre mémoire ? Seule sur un quai de gare, une femme songe à tous ses êtres aimés, perdus de vue, disparus, laissés au bord du chemin par choix ou par inadvertance. Tandis qu'un à un s'ouvre les tiroirs à double fond de sa mémoire, c'est tout un petit théâtre gigogne qui se déploie sous nos yeux, un nano-monde fait de mains, constitué de souvenirs, d'images juxtaposées, de chorégraphies minuscules et d'émotions vertigineuses. Bref, un road trip de l'infiniment petit qui nous emmène assez littéralement à la recherche du temps perdu. Kiss and Cry, le spectacle iconique de Michel Andemay et Jaco Van Dormael est de retour en Belgique pour une dernière danse. Et c'est ce que j'appelle une bonne nouvelle. Bonjour Michel Andemay.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes danseuse et chorégraphe belge. Vous êtes formée à l'école Mudra, fondée par Maurice Béjart, une des pionnières de la danse contemporaine en Europe. Il faut quand même le rappeler, vous avez cofondé la compagnie Rosas dans les années 80, avant de fonder votre propre compagnie Astragal, avec laquelle vous avez signé une trentaine de créations, toujours nourrie par un lien fort entre la musique, la narration et le mouvement. Et vous nous revenez donc sur scène avec Kiss and Cry, ce spectacle qui est né en 2011, qui mélange, comme on l'a déjà évoqué, la chorégraphie, le cinéma, le texte, le théâtre d'objets. Moi, je me demandais comment on explique, comment on raconte Kiss and Cry à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Qu'est-ce que vous en dites, vous, quand vous en parlez ?
Ben, on lui dit d'aller le voir.
Évidemment, c'est la meilleure réponse. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, ce spectacle qui va bientôt fêter ses 15 ans, si j'ai bien compté. C'est un bel âge. Comment on replonge dans un projet pareil ? Est-ce qu'on y revient de façon apaisée ou est-ce qu'il y a un petit vertige d'émotion à se remettre dedans ?
Un énorme vertige d'émotion. Je vais juste dire qu'en 2011, au début, la création Kiss and Cry, c'est aussi l'histoire d'un collectif.
Bien sûr.
Donc il y a Jaco Van Dormael et moi-même, donc, c'est mon partenaire, c'est l'homme qui me fait l'honneur de m'aimer. Et il y a avec nous toute une série d'artistes, il y a bien sûr l'auteur Thomas Gunzik, il y a Sylvie Olivier qui brûle les décors. Donc ça, c'est les partenaires principaux de la création. Et puis, il y a Julien Lambert, il y a Grégory Grosjean qui était là à la création aussi avec moi. Il y a Nicolas Olivier. Donc ça, c'était ceux qui étaient à la création. Et au fil des ans, il y a beaucoup de personnes qui se sont rajoutées à notre équipe et qui ont fait une sorte, qui ont créé une sorte de tribu. Aurélie Leport aussi, qui était là avec nous au début à la création. Mais tout ça, c'est une histoire extrêmement intense d'artistes qui se sont définis un genre, qui ont cru, qui ont cherché, qui ont joué. Donc énormément d'émotions parce que malgré le professionnalisme, l'esprit scientifique et de recherche et l'humilité de tous ces créateurs, ben, on a eu quand même la nouvelle assez rude qu'on oreillait de la culture de la communauté française. Et donc, bien sûr, ce n'est pas le public qui a fait ça, puisqu'il est toujours là. Et revenir avec ce spectacle-là, ça soulève, oui, beaucoup de pourquoi, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de personnes qui donnent beaucoup à cette communauté, au public, à faire avancer les choses, à se questionner. Et donc, tous ensemble, voilà, on nous dit qu'on doit aller dans le privé si on veut. Donc, en fait, il y a tous des gens qui soit par jalousie, soit par non-connaissance du métier, privent, en fait, toute une partie de notre communauté de continuer à chercher, à créer et à jouer avec le public. Et voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et donc, il faut qu'on se batte pour exister. Et se battre pour exister, pour créer, c'est quelque chose qui n'est pas grave, c'est quelque chose de normal au niveau de la création. Après 50 ans de métier, de professionnalisme, voir à quel point on déprofessionnalise la culture, à quel point on appauvrit nos bases de d'où on vient pour savoir où on va. Et le monde va comme ça, il n'y a pas que notre petite histoire.
Bien sûr.
Mais ça crée énormément d'émotions, oui. Ouais. Voilà.
Une émotion douce amère, mais une résolution néanmoins de remonter sur scène et de redonner, redonner vie finalement à ce spectacle qui reste attendu et aimé du public.
Ah, mais de toute façon, là, bien sûr, les artistes, moi-même et tout ça, on va jouer à l'Eau de la Mania. On était revenus plusieurs fois en Belgique, en Flandre, en français, en flamand. Kissenkwai est traduit en 9 langues, ou en 11 maintenant, voilà. Et touche beaucoup de public et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter à cette décision stupide, mais ça, c'est une bataille. Parce que c'est... oui, c'est menacé. C'est sûr que rester à pouvoir honorer de la manière... les contrats qui étaient signés pour ces spectacles, pour que... On coule pas, d'ailleurs, on est en train de couler, voilà. C'est pas gagné. Donc ça, c'est une vraie bataille. Mais le spectacle lui-même, il sera là, il sera intact et il sera avec beaucoup d'émotion. Il sera donné à ce public qui vient nous voir, comme depuis 2011, il l'a été.
C'est la plus belle des réponses, peut-être, de continuer malgré tout, de voir des salles qui se remplissent malgré tout.
Ah, mais ça, c'est la plus belle chose, c'est l'histoire qui se crée entre nous et le public en art vivant. On est toujours conscient que cette histoire-là, on ne se donne pas et on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Ici, on ne sait pas si on aura l'occasion de la continuer. Parce que il ne suffit pas de le vouloir. Il y a, le monde va de plus en plus à serrer la pince pour mettre d'autres mécanismes en place. C'est une course effrénée pour, on ne sait pas quoi en fait, pour le pouvoir, je crois. Je ne sais pas. Moi, je suis une artiste, j'observe. Et ce n'est pas rien que notre propre place, mais c'est partout. Le monde devient fou. Mais l'histoire entre les gens, elle reste toujours belle. Hein. Donc, entre le public et les artistes, à partir du moment où on peut le faire, nous, est-ce qu'on pourra encore rencontrer le public? Parce que c'est beaucoup de travail, de géopolitique, de personnes qui doivent en vivre. Et que là, comment voulez-vous... décemment, parce qu'il s'agit de décence, rémunérer un tout petit peu les gens quand on n'a plus de soutien, quand il n'y a plus personne pour faire de la direction technique, enfin, à Stragal, tout le monde est licencié, hein. Il n'y a plus personne qui travaille. Donc ça, c'est la réalité. Quand une ministre dit « je raye une compagnie de la culture qui, effectivement, tourne dans le monde entier, qui, effectivement, emploie l'équivalent de 14 plein temps », elle met tous ces gens en précarité. Et aussi, elle rend impossible une série de choses qui se passent. Alors nous, c'est pas qu'on veut pas continuer, c'est voir est-ce que c'est possible. C'est...
Et comment on concilie justement l'urgence de dire ces choses-là, de diffuser ce message avec ce métier d'artiste qui est finalement de donner du plaisir, du rêve, de l'évasion, du divertissement. Et on a parfois un peu l'impression que le public vient et enthousiaste, vient chercher le divertissement, vient chercher la poésie, mais n'a peut-être pas toujours conscience des combats en fait à mener pour lui offrir ce plaisir, en fait, ce divertissement, ce travail.
Je crois qu'il faut être un peu schizophrène, il faut séparer les choses. Dans la création, et quand on est public, on doit être, et au moment où on travaille, on ne doit pas penser à ça. On doit laisser les gens pouvoir s'évader, parce que la catharsis existe. Il faut pas, on ne doit pas être militant. Enfin, on peut... Un artiste peut faire un art militant, pourquoi pas, ça c'est sa responsabilité, c'est son goût. Mais l'art ne doit pas être militant, d'ailleurs c'est une grande question qu'on nous demande en tant qu'artiste, c'est de poser, on ne reçoit des subsides que si on est ceci, que si on est cela, que si on va défendre ceci ou cela. C'est une chose qui devrait être exclue. Créer, c'est un acte politique en soi, par sa naissance et sa nécessité, parce qu'il va rencontrer des autres gens et il porte cette responsabilité-là. Le message qu'il va poser, il peut être tout à fait philosophique. Il n'a pas besoin de porter un discours qui soutient un parti ou une délégation. Ça, c'est personnel et c'est intime. Ça lui appartient. Donc, le moment où on rencontre, on va voir un spectacle, on regarde un film, on voit une œuvre d'art, on est en discussion avec l'œuvre et avec l'artiste. Et ça, c'est un rapport et une discussion intime. Et c'est là qu'on avance et c'est là que la société avance.
La pièce, elle est le fruit, on l'a dit, on l'a évoqué, hein, d'une création collective. Il y a toute une constellation d'artistes, de visions, de voix qui ont apporté un peu d'eux-mêmes et d'elles-mêmes dans le projet. J'aimerais bien qu'on revienne néanmoins sur la jeunesse de Kiss and Cry. C'était quoi le grain de sable qui a fait naître toute cette histoire et puis tout cet univers qui est devenu assez fondateur finalement, on va en parler aussi.
Au tout départ, c'était dans un chantier avec la compagnie transquinquennale, Jaco, moi-même et Grégory, où on discutait et on cherchait sur ce qui pouvait réunir la danse de théâtre et le cinéma. Jaco disait « Oh, moi, filmer la danse, c'est quelque chose de tellement complexe parce que je ne sais jamais choisir le gros plan ou le plan d'ensemble et comment je suis la chorégraphie et tout ça. » Et puis, bêtement, en boutade, j'ai fait un petit bonhomme qui marchait avec mes doigts et j'ai dit « Alors là, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu peux faire le gros plan et pour rigoler. » Et tout d'un coup, il a dit « Attends un peu. » Et puis, parce qu'on avait des caméras et on avait des tables et on avait des... Et là, avec Grégory, on s'est mis à jouer et il avait une caméra. Et c'est là qu'est né le prologue de Kiss and Cry.
Et ce qui est frappant, c'est que c'est partir de la nanodance, la danse des mains, la danse des doigts, c'est offrir un autre regard, c'est partir du plus petit aussi, alors que qu'au théâtre, on a l'impression qu'on est dans une débauche de moyens parfois. Ici, c'est partir de ce qui nous rassemble quelque part, de l'infiniment petit.
Oui, de l'infiniment petit, mais aussi on est sur scène, on est en art vivant. Donc, on a trouvé tellement fascinant de pouvoir voir le caméraman, de pouvoir voir les danseurs, et que la caméra révélait sur un écran son œil à elle, qui montrait cet infiniment petit. Et donc la pièce que vous voyez, c'est vraiment la fabrication d'un long métrage qui est fait de toutes petites choses. Donc vous êtes témoin de ce que l'œil de la caméra vous révèle et vous raconte une histoire, et vous êtes témoin de la fabrication, et vous voyez le truc, en fait.
Ouais. Il y a une fragilité.
Et
aussi,
cette fragilité-là est essentielle, et vous voyez s'assister aussi à la coordination qu'il y a dans l'équipe.
Qui est une chorégraphie aussi, finalement.
Qui est une chorégraphie, qui est une mise en scène, mais qui est une chorégraphie et une mise en scène de nécessité pour arriver à se faire ce tour de force à la virgule, au millicentième près, pour que ça corresponde, parce qu'évidemment, nous, notre jeu et notre sensibilité, c'était de réussir d'avoir des plans pour Jaco et pour Julien, d'avoir des plans parfaits qui étaient écrits, qui étaient intéressants. C'était pas juste de filmer, c'était d'avoir une écriture cinématographique, d'avoir un montage en direct qui était intéressant, d'avoir un éclairage qui était sensible. Donc c'est chaque fois un montage aussi pour chaque fois recalibrer les choses. Et puis en fait, de montrer que c'est joué. Les jouets d'un fait des enfants qui ont grandi, qui traînent à la maison, parce que tout a commencé avec ça, à la table de la cuisine après, Kiss and Cry. Donc, on a joué et tout. Que de tout ça, on s'est fait, en tout de pouvoir le faire le plus alléchant possible pour nous, d'aller le plus loin dans, avec les moyens. Donc, je crois que c'est, ça, c'était jubilatoire comme
le fait de chercher aussi.
De chercher. Au début, on n'avait pas d'histoire. L'histoire, c'est la dernière chose qui est arrivée. Donc Thomas écrivait des haïkus dans une pièce, puis il revenait, il voyait une scène qu'on faisait, puis on s'est dit comment on va relier cette scène. Jaco est parti un peu avec Thomas, puis on est revenu, puis on a voté. Puis Sylvie est arrivée aussi, elle avait fait tout un magasin de brôles. On a fait d'abord un mois de recherche à 5 pour vraiment évacuer. Et Colblot s'est fait dans le même esprit.
Colblot, qui est donc presque la suite directe, hein, finalement, de Kiss and Cry.
Qui est la deuxième création avec le même collectif d'artistes, en fait. Voilà. Et on n'a pas voulu faire la même chose, on a voulu faire autre chose, mais de nouveau, on est parti sans partir de l'histoire.
Ce qui est magique, c'est qu'on a vraiment ce nano-monde. On a donc ces maquettes, ces décors miniatures signés, on l'a dit, Sylvie Olivet, qu'il faut rappeler, qui excelle tant dans le décor, dans toutes les tailles, en fait, du monumental à l'infiniment petit, qui a travaillé pour le cinéma, pour le théâtre. Et c'est vrai qu'on a à la fois cet effet presque bricolé qui nous rappelle justement ces phases de recherche sur table de cuisine, comme vous l'expliquez, et puis cette haute technicité de réussir le geste technique de filmer, de faire le bon plan et d'avoir un résultat esthétique parfait. Donc finalement, si je vous entends bien, le spectacle, il est partout, il est à toutes les couches, il est très très près. On a presque envie parfois d'aller coller le nez à la vitre du petit diorama et en même temps de pouvoir regarder l'écran et de vous regarder vous circuler. Il y avait aussi une volonté de montrer que on peut décloisonner les disciplines, on peut tout faire en même temps, pourvu qu'on en ait le temps et l'opportunité.
Pourvu qu'on en ait le temps, l'opportunité, le désir, l'écoute de l'autre, et un lien fort entre les gens.
Ouais.
C'est-à-dire un lien fort, c'est-à-dire d'être, quand je dis l'écoute, c'est hyper important. C'est une confiance en l'autre et un appétit à l'émerveillement de l'autre, de ce que l'autre peut apporter. Et donc ça, c'est une leçon de vie qui est belle, qui est immense et qui peut faire des petits partout dans... Vivre ça, ça peut générer beaucoup dans la vie, quoi.
Oui, mais justement, c'est vrai que depuis la création de Kiss and Cry en 2011... On a vu fleurir tout un tas de formes de théâtre qui mélangent la vidéo en direct, le théâtre d'objets, la narration. Alors, il y en avait qui étaient contemporaines ou qui préexistaient, mais je vais citer en vrac le théâtre de Fabrice Murgia, le collectif mensuel, le Raoul Collectif. Est-ce que Kiss and Cry a ouvert une brèche ou en tout cas a formalisé, a montré quelque chose qui existait déjà, ou est-ce que le spectacle a fait des petits?
Ben, j'imagine que le spectacle a dû faire des petits parce qu'elle a dû donner et susciter des envies et susciter des désirs. Ça, c'est la moindre des choses et la plus belle des choses. Après, je crois que ça se situe dans un endroit et je crois que le mélange des genres n'est pas la clé. Je crois qu'on peut être aussi dans ne faire que de la danse, parce que je peux avoir la même chose dans Symphonie Heroica. Je suis qu'avec des danseurs. Et je peux avoir la même jubilation de travailler en équipe ou quand j'étais à faire Blue Smile avec dans une école, enfin une compagnie en Autriche, c'est retrouver cette ouverture, cet émerveillement de travailler ensemble, de ne pas avoir peur, de prendre une direction, d'être un créateur clé, si on veut, mais d'être à l'écoute des autres et d'en s'enrichir les uns les autres. Je ne crois pas que c'est spécifiquement la différence des gens. Je crois que c'est vraiment un état d'esprit de création et c'est de le reconnaître, c'est de l'engendrer. Et c'est vrai que tout ça, c'est des nouvelles ouvertures. Moi, la seule chose que je trouve très dommage, c'est que le monde politique et le monde institutionnel ne suit pas le mouvement. Parce que, en fait, aucun artiste dans notre communauté peut faire compagnie et peut exister en tribu et se développer. Et je ne comprends pas, je vous dis, ce n'est pas une attaque, vraiment, ce n'est pas une attaque, mais c'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on empêche Fabrice Murgia d'avoir une compagnie et d'être avec des chercheurs, des artistes et de pouvoir exister? Pourquoi on empêche Astragal d'exister et que c'est contre-productif? C'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on empêche Michel Noiret d'avoir une compagnie? C'est une chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en place, on ne donne pas des maisons de théâtre où on met ces bâtiments à l'honneur d'artistes. Je ne comprends pas ce discours qui dit qu'un directeur de théâtre ne peut pas faire ses œuvres dans ce théâtre parce que sinon il sera banni. C'est une notion que moi je ne comprends pas. Un artiste qui dirige un théâtre, le public va vouloir voir l'évolution de son œuvre. C'est une chose qui est normale. Et il y a une évolution. On ne crée pas juste un spectacle et puis on s'arrête, puis 5 ans après un autre. Il y a une évolution, il y a une recherche derrière. Et tout ça, pourquoi c'est si difficile à comprendre? Et pour les jeunes qui commencent, qui font école et qui sont inspirés, pourquoi on leur coupe les ailes en leur disant « Tu dois être brillant depuis le départ, sinon tu ne vas pas te faire reconnaître, tu ne vas pas pouvoir faire partie d'une famille ?» Parce que sinon, tu ne pourras pas, et de toute façon, tu ne pourras pas créer la tienne. Pour moi, c'est tellement incompréhensible d'une incompréhension de la situation.
Il y a besoin de récupérer un temps long et un droit à la recherche, finalement, à l'errance, à la non-efficacité.
Et aussi à l'existence de la tribu, de la pédagogie, d'appartenir à un groupe qui fait, qui va, et l'appartenance aussi, de trouver son public et de partager avec le public, de se tromper et de voir et d'échanger. C'est une notion que, vraiment, je ne comprends pas. Tous nos dirigeants d'institutions, ce ne sont plus des artistes. Sauf quand ils sont dirigeants d'artistes et qu'ils sont un artiste, ils ne peuvent pas créer. Donc, ils font la programmation. Et je ne veux plus être dirigeant d'institution. Hein. C'est pas pour moi que je parle. Mais c'est une notion comme ça que... Pourquoi ?
On a néanmoins le sentiment que ce besoin justement de refaire tribu, de décloisonner, de récupérer du temps long, il est réclamé non seulement par les artistes mais aussi par d'autres secteurs. On recevait la semaine dernière les intervenants de la création de Maison Gertrude, le centre de soins qui va accueillir un centre d'art à Bruxelles. Ça part aussi de ce sentiment-là, de décloisonner le soin à la personne, les gestes médico-techniques, l'art et le soin que l'art peut apporter dans le quotidien. On sent que le public en a besoin aussi. Là, vous allez remonter sur scène pour quelques dates à Louvain-la-Neuve avec Kiss and Christ. Il y a un message que vous avez envie de transmettre, c'est quoi justement dans ce sens?
Moi, j'ai juste un message à tout le monde, venez voir Kiss and Christ, surtout ne vous embarrassez rien d'autre que de voir le spectacle le moment où vous le voyez, et puis ramenez cela chez vous et faites des petits chez vous dans votre tête avec tout ça. Voilà, moi je suis pas une femme politique, j'ai des questions si je peux dire quelque chose. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas le rassemblement, n'oubliez pas que ce que soi-même on pense, ben l'autre peut penser différemment. Et que ça, c'est une des plus grandes richesses du partage et que ça ne doit pas faire des disputes. Voilà.
Le message est passé. Merci beaucoup, Michel Andemay. On rappelle donc que Kiss and Cry sera sur scène à découvrir ou à redécouvrir du 28 au 31 mai. Ça va se passer à Louvain-la-Neuve, à l'Aula Magna, dans le cadre de la programmation du théâtre Le Villard.
La première, kiosque.
On se replonge dans un autre territoire imaginaire, beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus régional, oui. Même avec vous, François. Vous êtes revenu du Théâtre des Martyrs avec un sourire enchanté. Vous êtes allé voir un spectacle qui est à l'affiche et qui a pour titre « L'arbre à clous ».
Oui, « L'arbre à clous », c'est le nouveau spectacle de Dominique Rodolphe et de sa compagnie Le Corridor. Et rien que le titre, il est plein d'énigmes. « Un arbre à clous », c'est en réalité une très ancienne tradition wallonne. Selon la tradition, les personnes qui souffrent prennent un clou, frottent se cloue à l'endroit de la douleur et le plante dans l'écorce d'un arbre pour que cet arbre les libère de la douleur. Alors la pratique est très ancienne, hein, elle relève de la croyance populaire, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que cette pratique, elle perdure. Il existe encore aujourd'hui des arbres à clous, il y en a dans le Hainaut, à Stambruge, à Herchy, c'est ma région. Ces arbres, encore sur pied, je peux vous le garantir, ils témoignent de la tradition, mais surtout, ils entretiennent le mystère. Alors le spectacle de Dominique Rodolphe, il part de cette tradition et il explore en fait les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui de réenchanter le monde.
Ah, décidément, trois interprètes sont au plateau. Ils entament donc une folle veillée autour d'un arbre à secret et d'un déguisement de gnome chanteur.
Oui, c'est étonnant. Hein. Ouais. Et pourtant, le spectacle part de la conférence. C'est très sérieux, une conférence cadrée, minutieuse, qui expose avec précision les faits, qui donne des informations très précises, documentées sur l'histoire, sur les pratiques liées à ces arbres à clous. Et puis l'univers bascule, c'est l'imaginaire qui refait surface. Les acteurs déclarent la guerre aux idées noires, ils s'interrogent aussi, ils taillent des morceaux de bois pour percer la grisaille du monde et puis surtout pour tenter de clouer notre souffrance au pilori. Nous avons rencontré Dominique Rodolphe.
Dans mon enfance, j'étais fascinée par un arbre à clous qui était au musée de la Vie Wallonne, un immense tronc rempli de clous et de tout ce qu'il y avait derrière. Donc tous les gens allaient porter leur souffrance la nuit, seuls, en cachette, allaient planter un clou après l'avoir frotté à l'endroit où ils avaient mal, le déposer sur l'arbre qui, lui, va prendre le mal. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et puis, bah, comme j'aime quand même bien de réfléchir à ce que ça peut encore nous apporter maintenant... On est parti, voilà, pour moi, un des plus grands mâles, l'idée qu'on plonge de plus en plus les gens dans le ressentiment, qui nous amène à soit déprimer, soit nous désengager, soit être dans la haine. Voilà. Comment est-ce qu'on peut, du coup, aller chercher la fonction de l'arbre, à quoi il servait et comment pourrait-il être remplacé, puisqu'ils sont tous en train de disparaître? Comment on pourrait rentrer dans le monde en épousant la confiance.
C'est un spectacle qui tout d'abord prend le pli de la conférence et puis l'univers bascule, c'est l'insouciance qui apparaît, c'est l'enfance aussi.
Oui, c'est l'endroit de l'enfance, c'est surtout la question de la confiance. Voilà, le « je sais bien mais quand même ». Je sais bien que c'est faux, mais quand même en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le faux, dans le jeu, dans la fiction, il y a quelque chose qui rejoint le réel et peut-être qu'on peut s'en emparer.
C'est la question des croyances qui est portée également. Oui. On a besoin d'invisible aussi.
Quand vous dites invisible, dans tout mon travail, c'est poser le sens, mine de rien, sans imposer. C'est comment, en regardant les choses d'une certaine façon, je vais avoir des idées qui vont me permettre de rester vers l'ouvert.
Ah, c'est beau.
Bah oui, hein. Et Ludovic Drouet, dans ce spectacle, endosse le costume du conférencier. Camille Fréchet, Julie Perra tentent de réinventer le monde sur le plateau. Alors ça peut paraître futile, ça peut paraître dérisoire, et pourtant, mettre le doigt sur une douleur, tenter de la comprendre, s'en libérer aussi, redéfinir ce qui se cache sous le mot guérison. Pour moi, l'essentiel est là.
Mais oui,
l'arbre à clous, l'arbre à clous, c'est le titre de ce spectacle. Il est encore à l'affiche du Théâtre des Martyrs et pour deux représentations, cet après-midi à 17h et ce soir à 20h30.
Voilà, ne pas rater, donc c'est un spectacle de Dominique Rodolphe et du Corridor, la maison de création liégeoise qui célèbre 20 ans d'existence cette saison. Merci beaucoup François Caudron. Je sais bien que c'est faux, mais quand même j'ai envie d'y croire. C'est aussi un peu la thématique du spectacle de notre invitée suivante.
Kiosque sur la première.
Il était une fois Marceline qui avait peur du noir et de son père. Dans sa chambre, il y avait un poster, une publicité pour un parfum. Gabriel est l'ange sur la photo, il est carrément canon. Et un soir où le père de Marceline tambourine particulièrement fort à la porte, la voilà qui s'échappe en compagnie de l'ange dans un monde merveilleux où il ne fait jamais nuit, où tout le monde brille et tout le monde, surtout, a droit à sa ration de paillettes. Et même si c'est pas vrai, c'est quand même peut-être parce que si Marceline rend le lait beau, c'est que c'est une question de survie. Marceline, un conte initiatique pour moyenne et grande personne, scène, c'est à voir en ce moment au Théâtre des Richclair à Bruxelles. On en parle avec notre invitée Claudia Bruno. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Kiosk. Claudia, vous êtes comédienne, autrice, metteuse en scène, formée à l'INSAS. Vous avez déjà exploré plusieurs horizons artistiques, hein, je pense radio, écriture dramatique, beaucoup de projets engagés aussi qui mêlent le théâtre et l'action sociale. Et c'est de tout cela qu'est né Marceline, donc ce voyage initiatique où l'imaginaire devient un outil de résilience. Je me demandais, est-ce que comme le Pierrot de la pièce, est-ce que Marceline est venue à vous en tombant d'un rêve? Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce personnage et son univers?
En vrai, je sais pas. J'imagine des choses que j'ai vécues aussi, notamment par le fait d'être artiste, en fait, de créer de la poésie, de créer pour s'échapper. À mon avis, ça a dû venir de là.
Ouais. C'est un projet dont vous avez commencé l'écriture, je pense, pendant vos études.
Exactement.
Et qui a mis un certain temps à se développer. Alors, c'est un univers où la thématique du rêve est d'emblée présente, hein, vu que le spectacle démarre dans le noir, dans une chambre, dans la chambre de Marceline. Et très, très vite, on va filer avec elle, au bout de quelques minutes à peine, vers une réalité parallèle. Alors, on pense évidemment à Alice au Pays des Merveilles, au Magicien d'Oz, au Petit Prince, mais pas que, parce qu'un petit oiseau m'a dit que vous vous étiez aussi inspiré des écrits de Jung. Ce qui est quand même assez sérieux. Racontez-nous ça.
En fait, Jung a écrit le Livre Rouge. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, pendant 10 ans, c'est un livre qu'il ne voulait pas publier. Pendant 10 ans, tous les soirs, il se mettait dans son bureau et il était entre rêve et réalité. Et il avait des espèces de fantasmes de personnages qui lui apparaissaient, une dame à barbe, enfin voilà. Et après, il notait ça. Il a fait plein de dessins magnifiques. Et c'était son journal intime. Mmh. Et après, il a dit que vraiment, ces moments-là l'avaient vraiment confronté à des images inconscientes qui avaient du sens et que de les dessiner, de les réécrire, ça lui avait appris énormément de choses sur lui, sur sa vie, sur sa manière de travailler. Du coup, et c'est un livre qui n'était pas destiné à la publication. Et quelques générations après, la famille a dit, bon, en fait, aujourd'hui, on pourrait tout à fait parler de ça. Un psy peut aussi être créateur. Mmh. À l'époque, lui, il n'osait pas
décloisonner non plus.
Voilà, ouais. Et ça m'a énormément inspirée pour Marceline.
Alors, c'est intéressant parce que ça nous parle aussi du pouvoir désinhibant du rêve. Alors, rêve est souvent un terme à valence positive, mais finalement, chez vous, c'est surtout une machine à s'enfuir, à transformer la réalité.
Tout à fait. Une machine aussi à avaler ce qu'on refuse d'avaler. Donc Marceline, elle fuit dans son rêve et elle rencontre des gens qui lui permettent de fuir encore plus loin, que ce soit dans la fête, dans la drogue, dans la spiritualité, enfin voilà, de manière hyper rigolote et tout ça. Mais le rêve, en fait, le trauma revient et le rêve se transforme en cauchemar régulièrement.
Ouais. Alors, au fil de son voyage, Marceline, elle va rencontrer effectivement une galerie de personnages un peu bizarres, très attachants. Il y a le Pierrot de la Lune, il y a la Reine Francis, il y a le Français bouddhiste, il y a un chat. Il y a une double lecture à tous ces personnages, mais un point commun, ils se tiennent tous et toutes à la marge. En quoi c'était important pour vous d'axer le propos sur la marginalité et surtout de la raconter comme ça?
En fait, je voulais vraiment... Donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu social, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de populations fragilisées, en Belgique et ailleurs. Et je viens aussi d'un milieu particulier. Je voulais vraiment parler de la beauté qu'il existe dans tous les milieux. Et dans des milieux où on galère, où j'ai beaucoup travaillé avec des sans-papiers, avec des réfugiés, avec des gens de la rue. En fait, même là, et même quand on prend de la drogue, et même quand on est addict, et même quand on n'a rien... Il y a aussi de la beauté qui existe là, il y a de l'amour, il y a des choses belles. Et je voulais vraiment mettre ça en valeur. Donc, pour moi, c'est pour ça que les costumes sont très beaux, dans ma vision, après, chacun.
Ils sont très beaux.
Ils sont très beaux, ils s'allument.
Ils claquent.
Et je voulais vraiment raconter aussi, les mettre en valeur. Tout le monde a le droit à la lumière. Et en particulier, dans ces milieux-là, je pense que c'est important de mettre en valeur ça aussi, là, cette beauté.
Et dans l'écriture, vous passez par le conte.
Oui.
Passer par le conte, c'était important également. Aborder la réalité de manière détournée.
Oui, déjà, ça permet d'avoir du recul par rapport aux choses. Et aussi, c'est histoire d'amener de la magie. En fait, tout est une question de prisme de vue. Moi, quand je dis qu'il y a de la beauté partout, c'est moi qui le vois comme ça. Mais je pense que tout le monde peut le voir comme ça. Et je pense que ça ferait du bien aussi à tout le monde de se dire, bon, ok, c'est la merde. Ça ne veut pas dire que c'est moins la merde. Ça veut juste dire que... comment on peut transformer ça pour en faire quelque chose de plus doux, de beau et c'est les chemins de résilience aussi.
Oui.
Ça veut dire que ce n'est pas une fuite. C'est une manière d'affronter aussi le monde quelque part.
Je crois que pour affronter et pour survivre, on a besoin de bouffées d'air. Et parfois, ces bouffées d'air, ça peut être la drogue, Ça peut être des chemins. Et moi, dans ce projet, je voulais pas juger les chemins que les gens empruntent, mais je voulais mettre en valeur leur survie et pas dire voilà, c'est ça la solution. Mais peut-être à un moment donné, c'est important que quelqu'un ait une bouffée d'air. C'est important. Voilà, quelqu'un à un moment donné s'est drogué, mais au moins il s'est pas suicidé. Ça a peut-être permis sa survie pendant un temps jusqu'à ce qu'il y ait après un travail médical et que la personne puisse vraiment arrêter quoi.
Ouais, c'est assez confrontant hein, d'ailleurs comme vision que vous proposez, parce que c'est vrai que dans le discours qu'il soit social ou même artistique, ces mécanismes de survie que peuvent être le déni, la fuite, les assuétudes sont souvent culpabilisés en fait. Ils sont montrés comme une façon de retarder la confrontation avec le problème. Ce que vous rappelez effectivement, c'est que ce retard de confrontation, ce moindre mal peut sauver des vies en fait à long terme, mais qu'à un moment il va quand même falloir affronter le problème.
Parce qu'en fait, ça n'arrange pas le problème. Mm-hmm. Le problème est toujours là. Mais je crois que peu importe le problème qu'on a, on a besoin à un moment donné de rigoler un bon coup, de rigoler de ses problèmes, d'aller danser, de s'éclater, de voir des gens qui nous font du bien pour après y revenir plus fort. Mm-hmm. Et ça, c'est ouais, je pense que c'est quelque chose auquel je crois.
Alors, la pièce aborde des thèmes violents, malgré le fait que c'est coloré, c'est joyeux, on rit beaucoup. Mais les thèmes sont bien là en sous-jacence, le sans-abrisme, les addictions, le monde de la nuit, la violence domestique. Des thèmes violents, mais c'est important de le préciser, aucune violence n'est jamais montrée sur scène. Il y a énormément de stratagèmes assez ingénieux dans la scénographie et dans la mise en scène pour ne pas confronter le public à ces violences.
Exactement.
Est-ce qu'on peut raconter un peu ou est-ce qu'on ne déflore pas du tout ?
Oh, on peut y aller. Hein.
Par exemple, il y a des scènes d'alcoolisme, mais on ne voit pas d'alcool.
Non.
Ça, c'est assez logique. Il y a des scènes de violence physique, mais on ne voit pas la violence non plus.
Pourtant, elle est là. Mm-hmm. Et tout le monde dit, c'est violent.
Ouais.
Mais vu que justement, les sujets traités sont violents, moi, je ne voulais pas qu'on joue la violence au plateau. Mm-hmm. Je voulais justement décaler, créer cette distance qui fait qu'on peut la sentir selon les codes qu'on comprend aussi. Et sans vraiment amener, voilà, par exemple, l'alcool. Alors, il y a des problèmes d'alcoolisme au plateau, mais on boit du parfum, quoi. Mmh. Bon, voilà. La drogue, c'est pas de la cocaïne, c'est des traits à la craie au sol.
Ouais.
Après, j'en dis pas plus parce que
sinon on va
dévoiler les secrets du magicien.
Néanmoins, il y a un travail, il y a une dimension médiation et éducation qui est bien présente dans le projet, dans le spectacle. Vous avez notamment collaboré avec l'ASBL Prospective Jeunesse. En quoi c'était important? En quoi ça a enrichi le projet? Est-ce que l'idée c'était de représenter tout ça avec plus de justesse malgré la distance onirique, ou est-ce que c'était déjà pour vous former à rencontrer le public ensuite dans les bords de scène?
Je crois que de base, comme c'est un projet qui est fait pour mettre en lumière les personnes marginalisées, c'était important pour moi de le faire pour eux. Mmh. Et quand on vient d'un milieu marginalisé, on n'a peut-être pas les codes pour comprendre. Ça peut être très confrontant aussi de voir un spectacle qui nous rappelle en fait des choses qu'on vit. Et de base, c'était vraiment ça. L'objectif, c'était s'entourer de professionnels, ce qui n'est pas mon cas, comme des psys ou des ASBL qui travaillent avec certaines thématiques. Donc, prospective jeunesse, c'est vraiment sur les assuétudes, pour pouvoir et former l'équipe de création et accompagner des bords de scène ou aller même plus loin dans des ateliers avec des gens qui réceptionneraient ça de manière violente. Au même titre, on a créé des ateliers parce que l'idée, c'est que tout le monde a le droit de briller et tout le monde a le droit à la lumière. Et ce que j'aimerais, dans l'idéal, peut-être pour l'année prochaine, c'est intégrer des gens extérieurs au spectacle qui puissent monter et avoir un moment scénique avec les acteurs. Quoi. Mmh.
On va dire un mot quand même sur la scénographie parce qu'elle est truffée comme tout bon rêve qui se respecte de symbolisme et de petits détails qui en disent long. Alors la lumière tient évidemment une place importante. On parle d'une héroïne qui a peur du noir, qui a peur de l'obscurité. Donc il y a énormément, ça scintille beaucoup. Les costumes, vous l'avez dit, sont très beaux, très colorés. Et il y a notamment au début cette robe couette qui efface en fait finalement le corps de Marceline. Mm-hmm. C'est presque de la dissociation. Et puis elle revient tout doucement. Et puis il y a de la musique. On chante beaucoup, il y a du chant choral, il y a de la cappella, il y a des sons presque guérissants. Et puis, il y a un petit clin d'œil aussi à la pop culture, c'est ça. Alors, moi, ça nous a beaucoup fait rire, on était plusieurs à rire dans la salle. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, on va quand même rappeler, ça c'est Cindy Sanders, Papillon de lumière. Ouais. Pourquoi ce titre et pourquoi ce clin d'œil-là ?
En fait, Cindy Sander, elle a été la risée de la France après son passage à La Nouvelle Star. Et ça a été très dur pour elle. Mm-hmm. Et en fait, par hasard, j'ai trouvé son histoire et ça m'a hyper fort touchée parce que c'est hyper pop. Tout le monde trouve que cette chanson est un peu voilà, rigolote, un peu bête. Et pour elle, elle en a fait une grosse dépression d'être. Mm-hmm. Donc, elle a été vraiment manipulée par la prod pour. C'est ce qu'elle. Ce sont ses mots. Mm-hmm. Pour en faire de trop à son casting. Pour, et du coup, tout le monde s'est foutu d'elle. Et puis, Thierry Mugler est allé la chercher. Et il en a fait l'égérie de son spectacle, mm-hmm. qui est dans la plus grande salle d'Europe à Berlin. Il l'a transformée. Enfin, ils ont vraiment travaillé ensemble. Et c'est une star internationale, toujours pas en France. Et en fait, son histoire m'a hyper fort touchée. Et du coup, j'étais là, ouais, en plus papillon de lumière, bon, la lumière, enfin, par rapport à Marceline, c'est tout ce chemin de résilience. Et en plus de ça, bon, il se fait qu'elle a, elle a eu aussi des, subi de la violence quand elle était petite. Du coup, j'ai acheté son livre. On s'est mis en contact. Je l'ai invitée à venir voir la pièce. Elle sait que c'est la marraine du projet. Et je trouve ça merveilleux, en fait, des gens que, qu'on considère comme débiles, qui font un parcours de résilience aussi
qui n'ont pas les codes
grand,
en plus. Ouais.
Qui n'ont pas les codes, parce que c'est ça, hein, Marceline, c'est une bande de bras cassés, en mm-hmm. fait. Ils sont too much, ben voilà. Et qui, au final, arrivent à vraiment briller dans la lumière. Moi, je dis, waouh, moi, je ne fais qu'applaudir, quoi. Je trouve ça hyper beau.
C'était hyper touchant, parce qu'effectivement, sous ce côté ben voilà, pop un peu ironique, un peu cynique qu'a acquis cette chanson, il y a toute cette histoire. On parle beaucoup aujourd'hui du syndrome de la figure du beauf. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus sur Rose Lamy, sur toutes ces personnes qui sont à la marge, dont on se moque parce qu'elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas le bon goût, etc. Mais en même temps, il y a un plaidoyer pour rester finalement qui on est, rester authentique à qui on est, quitte à être à la marge et à trouver sa vérité quelque part.
Oui, bah oui. Oui, vous faites très bien votre travail, hein. Moi j'ai plus rien à dire.
C'était ma traditionnelle question-réponse du jour.
Merveilleux.
Le spectacle, il est visible au Riche Clair encore jusqu'au 30 mai. Il y a, on l'a dit aussi, des ateliers, il y a un atelier Shining, donc pour apprendre à briller, un atelier d'écriture qui va se donner aussi en amont d'une des dates. Qu'est-ce que vous espérez que le public retienne, emporte de Marceline en sortant de la salle?
Il s'est passé un truc le soir de la première. Il y a une dame qui est venue me voir en pleurs, qui m'a dit qu'elle est venue voir par hasard voir ce spectacle. Et elle et ses amis sont addicts à la cocaïne. Mmh. Et elle m'a dit, ça a été un électrochoc. Et merci. Enfin, on en a beaucoup parlé. Et moi, je me dis, waouh, en fait, si là, on peut mettre... En fait, si ce que vit Marceline peut arriver, peut être une petite porte d'entrée pour des discussions et pour des chemins de résilience, bah, pour moi, c'est gagné, quoi. C'est super. C'est ça, l'objectif.
C'est entendu. Merci beaucoup, Claudia Bruno. On rappelle
merci
que Marceline est à découvrir au Théâtre des Riches Clairs à Bruxelles. C'est dans la salle Viala jusqu'au 30 mai. Et les représentations ont lieu à 20h30, sauf les mercredis à 19h. C'est important de le savoir pour ne pas être en retard. Et la pièce, on le rappelle, est accessible dès 13 ans. Un peu plus.
Ouais, peut-être 14-15,
accompagné et un peu plus tout seul. Et on va vite fait citer la distribution parce qu'ils sont fantastiques. Ouais. Et elles sont fantastiques. Amandine Vandenet, de François Badou, Réal Cielet, Bastien Delex et Sarah Baer dans le rôle de Marceline. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, il est temps de faire fonctionner le bouche à oreille. On passe aux recommandations, le choix du kiosque. François, il y a des spectacles dont on ne se lassera jamais.
Jamais. Et parmi eux, il y a Iphigénie à Splott, spectacle qui est repris en ce moment au Théâtre de Poche. L'histoire se déroule à Cardiff, au Pays de Galles, dans un quartier qui est miné par le chômage et par la précarité. Et au centre, il y a une jeune fille. Une jeune fille qui va perdre pied. C'est un personnage qu'on déteste au premier abord et qui va nous bouleverser ensuite. La pièce dénonce la précarité de certains quartiers, le manque d'infrastructures liées aux soins de santé et au social. C'est une très très belle performance de Gwendoline Gauthier, une mise en scène de Georges Ligny. Iphigénie à Splott, c'est jusqu'au 31 mai et c'est au Théâtre de Poche. Et puis on peut rappeler aussi que le Kunsten Festival des Arts rentre dans sa dernière ligne droite. Le Festival International de la Création Contemporaine se déploie jusqu'au 31 mai à Bruxelles. 34 projets artistiques sont au programme. Il nous reste encore à découvrir toute l'énergie des danseurs de la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez, à redécouvrir aussi le théâtre, les acteurs, les marionnettes de William Kentridge. Le Kunsten Festival des Arts surprend, oui, il dérange, parfois, sans doute, mais en tout cas, il ne laisse personne indifférent.
C'est certain, et encore un vaste programme donc pour découvrir toute une pléthore d'artistes belges et internationaux. Ça se passe à Bruxelles. Toujours à Bruxelles, on va faire un petit doublé au Théâtre des Riches Clairs, parce qu'il y
y a un autre spectacle dans l'autre salle que j'ai envie de vous recommander qui s'appelle « Mais c'est quoi ton vrai métier ?» Question naïve et maladroite qui a été entendue par bon nombre de comédiens et comédiennes professionnelles. Et bien, dans ce spectacle, un acteur et une actrice viennent à la rencontre des spectateuristes pour parler de leur travail. C'est quoi être comédien, comédienne aujourd'hui en Belgique? À travers des scènes issues de leur expérience, ils et elles vont tenter d'apprendre au public à mieux cerner le parcours et le quotidien d'une artiste belge, d'un artiste belge. Tout cela se joue donc jusqu'au 30 mai. C'est un texte de Lionel Liégeois. Et sur scène, on retrouve Aurélie Frenet et Benoît Janssens. Et puis, si vous êtes du côté d'Elessine ce samedi 24 mai, sachez que c'est la destination idéale pour assister aux scènes de village, la tournée culturelle et itinérante qui égaye les places de village de l'Est du Brabant Wallon pendant toute la belle saison. Chaque escale de la tournée propose une programmation différente. Il y a des arts de rue, du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique et diverses animations. C'est un événement gratuit à destination de tous et toutes. Ça se passe donc à Elessine, un peu partout dans la ville et surtout autour du musée Armand Pellegrin. C'est la fin de cet épisode de Kiosque. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à François Caudron. Merci à nos invités, Michel Andemay et Claudia Bruno. Épisode réalisé par Ajar Boulèche et Simon de Beuchard. Nous revenons la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres scènes. D'ici là, restez curieux, sortez de chez vous et plus que jamais, soutenez les artistes. À bientôt.